berceuse. Brahms, qui sonne comme une boîte à musique bon marché, que tous les enfants d'Europe ont entendu dans leur lit, au creux d'une peluche bleue ou rose. Brahms, la Volkswagen de la berceuse, massive et efficace. Il n'y a rien qui vous endort plus vite que Brahms, ce méchant barbu pillard de Schumann sans l'audace ni la folie. Sarah adorait un des sextuors de Brahms. Le premier sans doute, opus 18 dans mon souvenir, avec un thème, comment dire, envahissant. C'est amusant, le véritable hymne européen, celui qui retentit depuis Athènes jusqu'à Reykjavik et se penche sur nos charmantes têtes blondes, c'est cette foutue berceuse de Brahms, atrocement simple, comme le sont les coups d'épée les plus efficaces. Avant lui, Schumann, Chopin, Schubert, Mozart et tutti quanti. Tiens, il y aurait peut-être là un projet d'article. L'analyse de la berceuse comme genre, avec ses effets et ses préjugés. Peu de berceuses pour orchestre, par exemple. La berceuse appartient par définition à la musique de chambre. Il n'existe pas, à ma connaissance, de berceuse avec électronique ou pour piano préparé, mais il faudrait vérifier. Est-ce que je suis capable de me rappeler une berceuse contemporaine ? Arvo Pärt, le fervent estonien, a composé des berceuses. Des berceuses pour chœur et ensemble à cordes. Des berceuses pour endormir des monastères entiers. J'en ai parlé dans ma note assassine sur sa pièce pour orchestre Orient-Occident. On imagine parfaitement des dortoirs de moignons chantés avant de s'endormir sous la direction de Pop Barbu. Pourtant, il faut bien le reconnaître, il y a quelque chose de consolant dans la musique de Pärt, quelque chose de ce désir spirituel des foules occidentales, désir de musique simple, sonnant comme des cloches, d'un Orient où rien n'aurait été perdu de la relation qui unit l'homme au ciel, un Orient rapproché d'un Occident par le credo chrétien, un débris spirituel, une écorce pour des temps de dérédiction. Quelle berceuse pour moi, donc, allongée dans le noir, ici et maintenant, alors que j'ai peur de l'hôpital et de la maladie. J'essaie de fermer les yeux, mais j'appréhende ce face-à-face avec mon corps, avec les battements de mon cœur que je vais trouver trop rapides, les douleurs qui, lorsqu'on s'y intéresse, se multiplient dans tous les recoins de la chair. Il faudrait que le sommeil vienne par surprise, par derrière, comme le bourreau vous étrangle ou vous décapite, comme l'ennemi vous frappe. Je pourrais prendre un comprimé, tout simplement, au lieu de me recroqueviller comme un chien pétri d'angoisse entre mes couvertures moites que je retire, trop chaud là-dessous. Revenons à Sarah et aux souvenirs, puisqu'ils sont aussi inévitables l'un que l'autre. Elle a aussi sa maladie. Bien différente de la mienne, c'est certain, mais une maladie tout de même. Cette histoire de Sarawak confirme peut-être mes doutes. Est-ce qu'elle ne se serait pas perdue à son tour? Perdue corps et bien dans l'Orient, comme tous ces personnages qu'elle a tant étudiés? Ce qui a réellement scellé notre amitié, après Heinfeld et les lectures de Rückert, c'est la petite excursion à 30 kilomètres de là que nous avons accomplie à la fin du colloque. Elle m'avait proposé de l'accompagner. J'avais évidemment accepté, en mentant sur la possibilité de changer mon billet de train. Après donc un léger mensonge, j'ai participé à cette balade, au grand dam du serveur de l'auberge qui conduisait la voiture et pensait, certainement, se retrouver seul dans la campagne avec Sarah. Il m'apparaît très clairement maintenant que c'était sans doute la raison de cette invitation. Je devais servir de chaperon, ou retirer tout possible caractère romantique à cette promenade. Qui plus est, comme Sarah savait très peu d'allemand, et que le chauffeur improvisé maîtrisait assez mal l'anglais, j'étais requis, de cela je me rendis compte pour mon malheur assez vite, pour nourrir la conversation.